Chapitre 8. Monsieur Bergeret, dans son cabinet de travail, conversait avec Monsieur Goubin, son élève. « J'ai découvert aujourd'hui, dit-il, dans la bibliothèque d'un ami, un petit livre rare et peut-être unique. Soit qu'il l'ignore, soit qu'il le dédaigne, Brunet ne le cite pas dans son manuel. C'est un petit hindouze intitulé « Les caractères et pourtrectures tracés d'après les modèles antiques ». Il fut imprimé dans la docte rue Saint-Jacques en 1538. « En connaissez-vous l'auteur ?» demanda M. Goubin. « C'est un sieur Nicole Langelier, parisien, » répondit M. Bergeret. « Il n'écrit pas aussi agréablement Camus, mais il est clair et plein de sens. J'ai pris plaisir à lire son ouvrage et j'en ai copié un chapitre fort curieux. Voulez-vous l'entendre ?»« Bien volontiers, » reprit M. Goubin. M. Bergeret prit un papier sur sa table et lut ce titre. « Des trublions qui naquirent en la République. » M. Goubin demanda quels étaient ces trublions. M. Bergeret lui répondit que peut-être il le saurait par la suite et qu'il était bon de lire un texte avant de le commenter. Et il lut ce qui suit. « Lors parurent gens dans la ville qui poussoient grand cri et furent dites les troublions, pour ce qu'il servoit un chef nommé Trublion, lequel estoit de haut lignage mais ne peut de savoir et en grande impéritie de jeunesse. » Et à voir les Trublions, un autre chef, nommé Tintanabule, lequel faisoit beau discours et armes mirifiques. Il avoit été piteusement mis hors la République par loi et usage de l'ostracisme. De vrai, le dit Tintinabule, l'estoit contraire à Trublion, mais s'estui tira en aval, s'estautre tiroit en amont. Mais les Trublions n'en avoient cure, estant si folgeant qu'il ne savoit où alloit. Et vivoit alors en la montagne un villageois qui avait nom Robin Mielleux, jas tout chenu, et semblance de foin ou bleureau, de grands rues et cautels, et bien expert en l'art de feindre, qui pensoit gouverner la cité par le moyen de ses trublions et les flatois, et pour les attirer à soi, leur sifflois d'une voix doucette comme flûte, selon l'aiguise de l'oiseleur qui va piper les oisillons. Estoit le bon Tintinabule l'esbahit et marie de telle piperie, et avoit grand paour que Robin Mielleux lui prisse ses oisons. De soupe, Trublion, Tintinabule et Robin Mielleux tenoient commandement dans la caverne Trublionne. Trois coquillons bien aigres, 21 maranes, un carteron de bons moines mendiants, 8 faiseurs d'almanach, 55 démagogues misoxènes, xénophobes, xénoctones et xénophages, et 6 boisseaux de gentilshommes dévots à la belle dame de Bourde en Navarre. Par ainsi avoit chefs divers et contraires les trublions, et estoit bien importune engeance, et de mesme que harpie, ainsi que rapporte Virgilius, assise dessus les arbres, crioit horriblement et gastoit tout ce qui gisoit de soupe d'elle, semblablement ces mauvais stubrions se guindoient escorniches et pinacles des hôtels et églises pour de la despiter, garbouiller, embouser et compisser les bourgeois débonnaires. Et avoir diligemment choisi un vieil coronel du nom de Gelgopol, le plus inepte esguerre qu'ils eussent pu trouver et le plus ennemi de toute justice et contempteur des lois augustes, pour en faire leur idole et parangon, et alloi criant par la ville « Longue vie au vieil coronel !» Et les petits grimauds d'école piaillois semblablement à leur derrière « Longue vie au vieil coronel !» Faisoit les dits trublions, force assemblée et conventicule, en lesquels vociféroit la santé du vieil coronel d'une telle véhémence de gueule que les airs en estoient estonnés et que les oiseaux qui voloient pour l'or sur leur teste en tomboient estourdis et morts. De vrai, estoient bien vilaine manie et frénésie très horrible. Cuidoit l'édicte Trublion que pour bien servir la cité et mériter la couronne civique, laquelle effecte de feuilles de chaise nouées par une bandelette de laine, sans plus, et honorable entre toute couronne, faut jeter cris furieux et discours très insanes, que ceux qui poussent la charrue et ceux-là qui fauchent et moissonnent, mènent pestre les troupeaux et greffent leurs poiriers en ce doux pays de vignes, de blettes, de vertes prairies et de jardins fructiers, ne servent point la cité, ni ses compagnons qui taillent la pierre et bâtissent en les villes et villages des maisons couvertes de tuiles rouges et de fines ardoises, ni les tisserands, ni les verriers, ni les carriers qui œuvrent les entrailles de si belles, et que ne la servent point les doctes hommes qui labourent en leurs études closes et librairies bien amples à cognoistres beaux secrets de nature, ni les mères allaitant leurs nourrissons, ni ceste bonne vieille filant sa quenouille au coin du feu et faisant des comptes à ses petits-enfants. Mais qu'ils servent la cité, ces trublions, à braire comme asnes de foire. Et disons, pour être juste, que ce faisant pense soit bien faire, car ne avoient en propre que les nuages de leur cerveau et le vent de leur bouche, et souffloient à force pour le bien public et commun profit. Ils ne crioient pas tant seulement « longue vie » ou « aux vieilles coronelles », ils crioient encore sans répit qu'ils amoient la cité. En quoi ils faisoient grièves offense aux autres citoyens, en donnant à entendre que ceux-ci, qui ne crioient point, n'aimoient point la cité maternelle, les doux lieux de naissance. Ce qui est imposture manifeste et insupportable injure, car les hommes sucent avec le premier lect ce naturel amour, et il est doux à respirer l'air natal. Or, est-toi de ce temps en la ville et contrée, moult prud'hommes et sèges, lesquels à moi leur cité et république d'une plus chère et pure amour que onque ne la mère ses troublions. Car il vouloit, les dix prud'hommes, que leur ville demourasse sèche comme eux, toute florie de grâces et vertus, portant gentiment en sa dextre la vergette d'or que surmonte la main de justice, et fussent toutes riantes, pacifiques et libres, et non point du tout, comme à contre-fil, la souhaitoie ses troublions, tenant es mains gros bastons à escarbouiller les bons citoyens, et benoiste chapelet à marmonner des aves, horde et mauvaise et misérablement soumise au vieil coronel Gelgopol et à ce titinabule. Car de vrai, les vouloir soumettre aux frocards, hypocrites, bigots, cafards, imposteurs, pouilleux, enjuponnés, escabournés, encuculés, cagouleux, tondus et déchauds, mangeurs de crucifix, faiseurs de requiem, mendiants, faiseurs de dupes, captateurs de testaments, qui l'or pullulent et avoient acquis, jas furtivement, tant en maison qu'en bois, champs et prairies, la tierce part du pays François. Et ces studios, ces troublions, à rendre la cité toute rude et inélégante. Car avoir pris en aversion et dégoût la méditation, la philosophie, et tout argument déduite par droit de sens et fine raison, et toute pensée subtile, et ne connoît soit que la force, encore ne la prisoit-il que si elle l'estoit toute brute. Voilà comment ils amoient leur cité et lieu de naissance, ces trublions. Monsieur Bergeret se gardait bien, en lisant ce vieux texte, de faire sonner toutes les lettres dont il était hérissé à la mode de la Renaissance. Il avait le sentiment de la belle langue natale. Il se moquait de l'orthographe comme une chose méprisable, et avait au contraire le respect de la vieille prononciation si légère et si coulante, et qui, de nos jours, s'alourdit, malheureusement. Monsieur Bergeret lisait son texte conformément à la prononciation traditionnelle. Sa diction rendait aux vieux mots la jeunesse et la nouveauté. Aussi, le sens en coulait-il clair et limpide pour M. Goubin, qui fit cette remarque. « Ce qui me plaît dans ce morceau, c'est la langue. Elle est naïve. »« Croyez-vous ?» dit M. Bergeret. Et il reprit sa lecture. « Et disoient les trublions qu'ils défendoient les coronels et soldats de la cité et république, ce qui estoit gaberie et dérision. » Car les coronels et soldats, qui sont armés à force de cannes de feu, mousqueterie, artillerie et autres engins très terribles, ont emploi défendre les citoyens, et non soit être défendus par les citoyens inarmés, et qu'il estoit impossible de imaginer qu'ils fussent dans la ville assez folles gens pour attaquer leurs propres défenseurs, et que les prud'hommes opposés aux trublions demandoient tant seulement que les coronels démourassent honorablement soumis aux lois tant augustes et saintes de la cité et république. Ainsi, l'édict Trublion crioit toujours et ne savoit rien entendre, pour ce que, avare nature, les avoit désnués d'entendement. Nourris-toi, les Trublions, grand haine des nations estranges, et au seul nom d'édicte nation ou peuple, les œils leur sortiroient hors de la steste, à la mode des écrevisses de mer, très horriblement, et faisoient grand tour de bras comme aise le moulin. Et n'est-toi, émieux, clerc de tabellion, ou apprenti charcutier, qui ne voulussent envoyer cartel à un roi ou reine ou empereur de quelque grand pays, et le moindre bonnetier ou cabaretier faisoit mine à tout moment de partir en guerre. Ainsi, finalement, demeurât en sa chambre. Et comme est véritable que de tout temps les folles, plus nombreux que les sèges, marchent au bruit des vaines cymbales, les gens de petit savoir et entendement, de cela ils s'entrevent beaucoup, tant parmi les pauvres que parmi les riches, faire leur compagnie aux trublions et avec eux trublionnaires. Et ce fut un tintamarre horrifique dans la cité, parce que la sèche pucelle Minerve, assise de son temple pour n'être point tympanisée par tel traîneur de casseroles et papegée en fureur, se boucha les oreilles avec la cire que lui avoit apportée en offrande ses bien-aimées abeilles de Limette, donnant ainsi à entendre à ses fidèles, doctes hommes, philosophes et bons législateurs de la cité, que, est-toi à peine perdu d'entrailles en savantes disputes et doctes combats d'esprit, avec ces trublions trublionnants et titinabulants, et aucun dans l'estat, non les moindres, abasourdi de ce garbouille, cuidoit que ces folles fussent au point de bouleverser la République, et mettre la noble et insigne cité cul par-dessus teste, ce qui eût été bien lamentable aventure. Mais un jour vint que les trublions crevèrent, pour ce qu'ils estoient pleins de vent. » Monsieur Bergeret posa le feuillet sur sa table. Il avait terminé sa lecture. « Ces vieux livres, dit-il, amusent et divertissent l'esprit. Ils nous font oublier le temps présent. » « En effet, dit Monsieur Goubin, et il sourit, ce qu'il n'avait point coutume de faire. »